Erwan Lenoir, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, merci d'être là. C'est votre première participation à cette émission. Je m'en réjouis. Vous êtes partenaire d'Altermind et vous êtes chroniqueur à l'Opinion. Pierre-Henri de Menton, bonjour.
Bonjour.
Directeur de la rédaction de Challenge. L'affaire EDF, comment passer l'hiver? C'est à la une de Challenge. Et Erwan Tison, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Il est directeur des études de l'Institut Sapiens. Vous avez coécrit un robot dans ma voiture, prendre le virage du véhicule autonome chez Emma Édition. Prochaine note de l'Institut Sapiens?
Sur la retraite, et on explique comment est-ce qu'on peut profiter du creux générationnel qui arrive en 2028 pour instaurer un pilier capitalisation qui soit totalement indolore pour les entreprises, les finances publiques et les ménages, et qui permettrait dès 2042 de pouvoir compenser une partie de la baisse annoncée par le corps des pensions de retraite pour tous les retraités.
Alors justement, moi j'ai toujours des gens qui réagissent à ça en disant c'est très beau la capitalisation, mais enfin le jour où le marché s'écroule, comment on fait? Parce qu'on est très énervé quand les dividendes sont très importants, mais on sera très très malheureux si tout d'un coup l'ensemble des pensions est englouti, vous voyez ce que je veux dire.
On peut demander aux pharmaciens et aux fonctionnaires qui aujourd'hui sont les deux seules professions qui ont des régimes par capitalisation et qui ont fait par exemple en 2020, année de la pire récession qu'on ait connue ces 60 dernières années, plus de 9 à 10% de rentabilité sur la retraite.
Je sais. Bon. Un nouveau chèque pour soutenir le pouvoir d'achat. Il est inscrit dans un ultime paquet pouvoir d'achat de 2,5 milliards d'euros qui s'est greffé au budget rectificatif 2022. Tout ça a été voté 149-3 vendredi. Et donc, il y aura 50 à 200 euros versés sous condition de revenus, 2260 euros par mois maximum pour une personne seule. C'est 1,7 SMIC, 4750 euros par mois pour un couple avec deux enfants. Il faudra en faire la demande de ce chèque à compter du 22 décembre. Sur chèqueénergie.gouv.fr. Déjà, le fait qu'il y ait un site dédié, ça veut quand même tout dire. Vous mettez votre numéro de télédéclaration et vous mettez vos factures de bois. Alors, je n'ai pas le nombre de ménages bénéficiaires, mais on voit qu'on est en train de remonter un petit peu les niveaux de revenus, justement, pour essayer de toucher un maximum de monde. Vous avez vu qu'il y a une rallonge sur le chèque énergie qui va de 100 à 200 euros et la partie rallonge exceptionnelle sera versée à beaucoup plus de ménages que ceux qui habituellement touchent le chèque énergie. Normalement, on est proche des 6 millions de bénéficiaires pour le chèque énergie. Eh bien, la rallonge, c'est pour 12 millions de foyers. Parce qu'il se passe quelque chose. Chaque fois qu'on verse quelque chose, chaque fois qu'on verse une aide au plus modeste, celui qui est juste un petit peu au-dessus du plus modeste, eh bien, ça l'énerve. Ça l'énerve parce que lui, il travaille. Il se lève tôt le matin, comme dit Gabriel Attal dans différentes interviews, notamment à BFM TV qu'il a accordé cette semaine. C'est la France laborieuse. Elle sait qu'elle bosse, elle sait qu'elle paye de l'impôt sur le revenu notamment. Et elle a le sentiment qu'elle paye toujours pour ceux qui ne font rien. C'est exactement comme ça qu'il le dit. On lui prête une phrase qu'il n'a pas démentie, mais qu'il n'a pas commentée non plus. Les classes moyennes ont le sentiment qu'on balance des canadaires d'argent public, Pierre-Henri de Menton, pour aider ceux qui ne bossent pas. La dernière fois que j'avais fait une chronique sur une aide du gouvernement sur BFM TV, j'avais eu un tombereau de réactions exactement semblable à ça, à tel point que, souvenez-vous, j'avais ouvert cette émission en faisant une litanie de réactions sur Twitter que j'avais lu en intégralité. Et là, on est sur quelque chose de lourd.
Voilà, alors en fait, c'est un week-end plutôt économe. Hein, on a balancé que 230 millions d'aides publiques ce week-end.
2,5 milliards quand même.
Hein, oui, mais d'habitude, vous savez que chaque week-end, il y a un ministre qui arrive avec son aide. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est le fait que le seuil, là, soit un peu plus élevé. Hein, donc, ça touche les classes moyennes, voire classes moyennes supérieures. Hein, on a 2600 et quelques, ce qui est bien au-dessus même du salaire médian. Et l'autre chose, c'est effectivement le discours qui entoure ça, qui est un discours qui est un discours de droite, hein, contre la Citana, etc. Donc il y a une prise de conscience peut-être un peu tardive, mais de quelque chose qui traîne. Vous savez, Maurice Lévy, le président du conseil de surveillance de Publicis, a publié il y a quelques mois un livre qui s'appelle « Ouvrez les yeux sur les classes moyennes », qui est fait d'après des études qui ont été faites par Publicis sur les classes moyennes depuis 2007. Et on voit cette exaspération qui monte, et qui, effectivement, en grande partie, qui était celle des gilets jaunes.
Exactement.
Donc, il y a une prise de conscience, mais il y a toujours ce fond, on est contre la Citana, mais on balance quand même, sans parler des objectifs climat, parce que je vous rappelle quand même que brûler du bois, ça émet du CO2, donc j'attends maintenant les écolos sur le sujet.
Brûler du fuel aussi, parce qu'il y a le chèque fuel de 200 euros, hein, qui est cumulable avec le chèque énergie, et le versement a commencé au mois de novembre, sans compter le bouclier tarifaire ou même la ristourne carburant qui existe encore. Erwan Tison, ça vous inspire quoi, ce risque social, là il y a un risque social.
Alors, premièrement, je pense qu'il faut une il faudrait effectivement faire appel à des cabinets de conseil pour savoir un peu tous les chèques qui existent. Voilà, pour faire le lien avec un autre sujet.
Oh, le gros mot.
Parce que j'avoue que j'essaye de suivre ces sujets-là, j'ai épluché le PLF, mais là, je serais incapable de vous dire le nombre de chèques qui existent aujourd'hui.
J'ai essayé de faire la liste. Et moi qui scrute ça, je me suis dit, mais comment les gens s'y retrouvent? Parce que là, le chèque énergie, plus le chèque énergie exceptionnel, enfin, objectivement, pour s'y retrouver, c'est quand même malade.
Et en plus, il y a des chèques annoncés qui n'ont pas été faits, les chèques fruits et légumes, etc. Il y a plein de chèques qui ont été annoncés, qui n'ont pas été réalisés. Moi, je pense que ça pose vraiment une question qui est beaucoup plus fondamentale que ça dans notre pays, c'est qu'aujourd'hui, quand on a un choc inflationniste, on va dire moyen, modéré, en tout cas par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a plusieurs années, on est incapable aujourd'hui de vivre de son propre salaire. Et ça devait être le cœur même de justement notre réflexion. Pourquoi est-ce qu'on augmente les seuils aujourd'hui? Les seuils, quelque part, c'est un petit peu l'histoire de la tragédie économique française. Quand on vous regarde, et c'est pas étonnant d'ailleurs que les publics que vous citez soient obligés d'être ciblés par des aides spécifiques. Aujourd'hui, la classe moyenne française, il faut savoir que depuis 15 ans, c'est celle qui a connu la plus faible augmentation de son salaire moyen. Quand vous regardez un petit chiffre, depuis la mise en place des effets Fillon, vous savez, on est en 2003-2004, et donc du coup, l'idée, c'était de dire... Je vais faire en sorte qu'il y ait des aides, la diminution des aides, des cotisations sociales jusqu'à 1,6 SMIC. Quand on regarde l'histoire qu'il y a eu derrière, c'est qu'il y a eu une formidable augmentation du salaire médian jusqu'à 1,6 SMIC, mais depuis on stagne à 1,6 SMIC.
Logique.
Et ce qui s'est passé, c'est que du coup on a créé un énorme effet de seuil qui fait que à ces alentours-là, augmenter de 100 euros votre salarié, ça vous coûte 280 euros en moyenne. Et donc du coup, ce qui fait qu'on a paupérisé la population française en la stagnant autour de ce niveau-là. Résultat, en 15 ans, l'augmentation des personnes du premier et deuxième décile, donc en gros ceux qui sont au SMIC, et l'augmentation de ceux qui sont 8e et 9e décile, donc en gros les plus riches de ce pays, ont connu une augmentation de leur salaire deux fois plus importante que les personnes qui sont au salaire médian. Donc cette classe moyenne justement sur laquelle on a concentré leurs revenus autour de 160% du SMIC n'ont pas vu leur salaire augmenter. Et donc malheureusement, tout augmentant, la part justement des dépenses non pilotables augmentant aussi avec le temps, ça l'INSEE l'a suffisamment renseigné, et bien du coup ces personnes-là n'ont plus du tout de budget arbitrable. Et donc du coup, si vous n'avez plus de budget arbitrable, non seulement vous ne pouvez plus épargner, donc du coup vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un bouclier temporel pour justement faire en sorte que la plupart de vos augmentations à venir soient épongées, et d'autre part vous ne pouvez plus justement vous permettre de subir un choc inflationniste comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc du coup, malheureusement, le rafistolage qu'est en train de faire le gouvernement, qui pour moi est un énorme aveu de faiblesse, parce qu'on est en train de décoper ou de mettre du sparadrap vraiment sur le navire qui coule, on devrait plutôt se poser la question de changer de navire plutôt que justement d'essayer de colmater quelque chose qui ne va pas. Ça demande quoi? Ça demande de remettre en place une échelle mobile des salaires, pourquoi pas, mais en tout cas une échelle de cotisation mobile sur tous les salaires. Ça demande aussi peut-être de se poser la question de faire des transferts, comme le font par exemple les pays nordiques, des cotisations vers l'impôt sur le revenu pour le financement par exemple de la protection sociale. En France, on est un des pays en Europe où la part d'impôt sur le revenu est la plus basse dans le PIB, mais là où les cotisations sociales sont les plus hautes. Par contre, on est peut-être le pays d'Europe où on plastronne le plus, où on affirme le plus que le travail doit payer. Mais on est celui qui taxe le plus le travail. Et troisièmement, peut-être aussi un transfert générationnel à opérer entre potentiellement les retraités qui, je le rappelle, ont non seulement un pouvoir d'achat ou en tout cas un niveau de vie qui est 5% supérieur à celui des actifs, mais qui en plus, eux, ont été les seuls qui ont connu une augmentation, une indexation de leurs revenus sur l'inflation, quelque chose qui a quand même coûté 15 milliards d'euros aux actifs que nous sommes. Donc il y a peut-être des choses à faire effectivement, plutôt que de faire des petits chèques à droite à gauche qui nous coûtent une fortune et qui en plus créent un besoin qui, après, une fois qu'on arrête le chèque, générera mécaniquement une frustration. Oui. Alors qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est tout simplement remettre à plat notre matrice fiscale, notamment sur le travail, et mettre à contribution ceux qui peuvent payer. Entendez par là les retraités et pas les plus riches.
Ouais, vous allez vous faire des copains. Ils vont nous envoyer des petits mots avant la fin de l'émission. Par rapport à tout ce qui a été dit, Erwan Lenoir, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit?
Mais moi, je trouve que c'est très illustratif du blocage et des limites du modèle social français, en fait. On voit à quel point il est à bout. Au sens où on a d'un côté de l'État qui donne et de l'autre côté des gens qui bénéficient. Les gens qui financent d'un côté sont relativement légitimes à dire on en a marre de donner. On est le pays qui redistribue le plus de l'OCDE. Et ceux qui touchent, une fois qu'ils ont touché, seront assez légitimes à dire maintenant, nous, on veut pas perdre notre aide. Parce que si on perd, par ailleurs, comme on n'a pas nécessairement de perspective sociale par ailleurs, c'est une perte nette et pas de perspective vers la suite. Donc on a l'illustration même d'un système qui, parce qu'il prétend lutter contre les inégalités, produit de l'injustice, et un système qui, parce qu'il prétend faire de l'unité sociale, conduit à la division sociale. C'est-à-dire un échec sur tout le système. C'est économiquement inefficace et c'est socialement en train de faire croître une tension toujours plus forte dans la société.
C'est gay, hein, Pierre-Henri, notre histoire là. Non, parce que le sujet structurel qui est décrit, c'est vraiment ça. Et en attendant, maintenant, on a branché les perfs là, Et les montants sont importants. Encore une rallonge de 2,5 milliards d'euros comme ça, glissés dans une loi de finances rectificative pour 2022.
C'est le budget d'Inserm.
Et là, c'est sûr que ça a été voté. Il n'y a pas besoin d'un 49-3 pour y arriver.
Ils vont éviter aussi de faire la comédie du 49-3 à tous les coups, parce qu'il y a un moment, vous savez, c'est à force de s'en servir, plus personne ne s'en rend compte. C'est toujours la même histoire. Également dans l'actualité, alors ça n'a absolument rien à voir. Je ne l'avais pas mis dans les sujets du jour, mais Pierre-Henri me dit en arrivant, mais il faut quand même qu'on dise un mot de la Chine. Il faut reconnaître que ce qui se passe en Chine, c'est à la une des Échos ce matin, l'incroyable colère contre les effets du zéro Covid, jusqu'à avoir entendu dans certaines rues chinoises, Xi Jinping démission, Xi Jinping dégage. On peut dire ça à place de la République contre Emmanuel Macron, on ne risque rien. Quand on s'amuse à crier ça dans les rues en Chine, ce n'est pas exactement la même chose. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à ce sujet, Pierre-Henri de Menton ?
Non, moi j'étais très impressionné par ces images. C'est le mouvement A4, hein. Vous savez, on brandit des feuilles blanches, synonyme de censure. Le hashtag A4 a été supprimé dans la nuit. Tout s'est refermé, hein. Effectivement, là il n'y a plus d'images. Alors il y a deux façons de le voir. Il y a une façon, on va dire... J'étais très frappé ce matin par l'ouverture de Hong Kong en net baisse et Tokyo...
La bourse, hein.
Ah ouais, et Tokyo plus mitigé. La première, c'est de se dire que, et ça a déjà commencé, que le pouvoir central va devoir rouvrir le pays. Sinon, donc il y a cette pression qui vient de partout, hein, qui est à la fois économique. Je rappelle que les chiffres économiques sont quand même très très mauvais. C'est la fin du deal... Genre, je t'enrichis, mais tu te tais, c'est en train d'exploser. Donc, est-ce qu'ils vont avoir le choix ? Est-ce qu'ils ne ils vont pas devoir ouvrir ? Ça, c'est le côté, on va dire, optimiste, si on se place du côté des échanges internationaux et de l'économie mondiale. Le côté pessimiste, c'est effectivement que le pays est beaucoup plus fragile qu'on l'imagine. On a une espèce de, j'ai l'impression, de sentiment d'infériorité en Europe occidentale, en disant les démocraties sont mal armées, etc. Et en fait, je pense que les systèmes autocratiques sont mal armés face à ça. On le voit en Iran... On le voit en Chine, on va le voir, je pense, en Russie. Hein, on l'a vu au début, mais je pense qu'il va forcément se passer quelque chose. Et là, effectivement, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus inquiétant, hein, si on se met d'un côté un peu cynique, parce qu'on ne sait pas où on va aller, quel type de... S'il n'y a plus Xi Jinping, qui sait, s'il n'y a plus Poutine, qui sait, si ce n'est pas les mollahs, est-ce qu'on sera beaucoup mieux avec des gardiens de la Révolution ? Donc là, on a l'impression... avec ces deux affaires en Iran et en Chine, qu'il y a quelque chose qui est en train de basculer.
Sur un autre terrain, hein, je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose sur la Chine, mais sur un autre terrain, il sera intéressant de voir comment on va évoluer. Alors là, c'est pas du tout, c'est une démocratie pour le coup, mais la situation de la Grande-Bretagne. Parce que alors là, ce qui remonte comme information sur l'état de grogne sociale, de crise sociale chez les Britanniques, enfin, c'est vraiment Ken Loach est de retour en Grande-Bretagne. Ça prend une dimension, une ampleur absolument incroyable. Est-ce que vous avez peur de la boucle prix-salaire, Pierre-Henri de Menton ? Parce qu'on a vu que même jusque dans les rangs de la BCE, Philippe Lane, le chef économiste de la BCE, commence à se demander si cette boucle prix-salaire, qui ne s'est pas engagée, mais qui est le moment déclencheur où là on peut vraiment parler d'inflation et où on risque une inflation qui s'emballe, est-ce que vous pensez que ça peut effectivement...
Alors d'abord,
arriver
c'est pas tout à fait nouveau, parce que Christine Lagarde, on a parlé, hein, de, ça s'appelle l'effet de second rang.
L'effet de second rang.
L'inflation augmente et naturellement... ce qui est tout à fait normal, les salariés demandent des augmentations. Alors, il y a des pays où c'est presque indexé. C'est le cas, par exemple, en Belgique. Donc, effectivement, ça devient très, très inquiétant. En France, c'est pas tout à fait le cas, mais
non, on n'est pas indexé
on revient
France.
À notre sujet du début. Il y a une très grande inégalité face à ça. Quand on voit ce qui se passe dans les grands groupes, ce que lâchent en termes d'augmentation des groupes comme L'Oréal, par exemple, des groupes qui gagnent, c'est vrai, beaucoup d'argent par rapport à la situation dans l'immense majorité des entreprises, des PME, il y a deux mondes complètement différents. Alors, on avait déjà deux mondes avec le télétravail, hein, on se rappelle, l'école bleue et l'école blanche. Et là, on va avoir les grands et les petits, hein, les grands et aussi les fonctionnaires, parce qu'il y a une forme d'indexation dans le revenu des fonctionnaires. Donc, l'effet de second rang, il est, à mon avis, dangereux économiquement, mais il est aussi dangereux socialement, parce que il y a cette grande bifurcation entre les salariés des grands groupes et les autres, et tous les autres.
Il est vrai que si on regarde aujourd'hui la moyenne des augmentations depuis le début de l'année, on est à plus 3,7%, donc on est bien sûr très nettement en dessous de l'inflation, mais même en dessous de l'inflation qu'on pourrait considérer comme l'inflation dure, la sous-jacente. C'est-à-dire débarrasser des éléments volatiles. Donc, s'il est certain aujourd'hui qu'il y a une baisse du salaire réel dans la mesure où les hausses de salaire sont inférieures à l'inflation, et on voit que les entreprises sont quand même encore toujours dans l'idée qu'il vaut mieux essayer de jouer pour l'instant sur des primes, de jouer sur de l'intéressement, de la participation, pour éviter de figer dans le temps des augmentations qui deviendraient très dures à supporter dès l'instant où l'inflation aurait particulièrement reculé. Est-ce que la boucle prix-salaire vous fait réagir davantage par exemple ? Je passe au sujet suivant. Les Européens face au... Erwan Lenoir, vous appelez ça une loi anti-inflation aux États-Unis ou un pur texte bien protectionniste à l'ancienne ?
Un peu des deux, mais non, mais je pense que c'est un texte protectionniste qui utilise le sujet de l'inflation comme
prétexte.
Qui montre aussi, à mon avis, une certaine continuité dans la politique américaine. Donc tout le monde a hurlé quand Trump faisait du protectionnisme, quand Trump tapait sur les Européens, quand Trump faisait de l'américain pour l'américain. Et on se rend compte qu'avec Biden, surprise, c'est la même chose. Mais les Américains sont un pays qui s'oriente sur ses politiques, sur ses propres intérêts. Et on voit là que la continuité entre les deux, d'un mandat à l'autre, et on voit à l'inverse la faiblesse européenne qui ne sait pas se coordonner pour trouver une réponse, ou n'a pas su d'ailleurs par le passé trouver une réponse, et on a caché cette faiblesse, cette absence d'unité sur la vision de la politique industrielle et économique comme en s'opposant à Trump. Mais ça va beaucoup plus, en réalité la faiblesse est beaucoup plus structurelle, c'est qu'on n'a pas exactement les mêmes structures économiques, on n'a pas les mêmes visions de la politique économique, on n'a pas les mêmes expositions aux exportations aux États-Unis. Et tout ça est en train de se voir aujourd'hui. Les Européens, et d'ailleurs, je trouvais assez ironique d'entendre aujourd'hui la France à la fois se vanter d'avoir augmenté ses exportations et en même temps nous dire qu'il fallait acheter européen. Il y a une certaine contradiction à vouloir à la fois faire d'un côté vanter une forme de protectionnisme, que le European Buy Act, je ne sais pas son titre exact, ça revient à ça, et dans le même temps vouloir absolument être ceux qui exportent le plus. Donc on ne peut pas à la fois vouloir nous acheter européen et demander aux Américains, aux Chinois, de ne pas faire la même chose, même s'ils le font parce qu'ils sont plus fortement...
Ils le font ouvertement et ils le font beaucoup plus.
Bien sûr.
Mais donc, il y a un moment, il faut que, si je suis votre pensée, ça veut dire que les 27 ne doivent pas essayer d'apporter une réponse proportionnée à ce qu'ils sont en train de faire. Parce que les Américains ne s'en cachent même pas. L'Inflation Reduction Act, c'est quand même un truc absolument incroyable. Ça exclut pratiquement de facto l'ensemble des voitures qui ne sont pas produites par des constructeurs américains. Là, ils viennent de bloquer officiellement les équipementiers chinois n'ont plus le droit de vendre sur le sol des États-Unis. Il y a un moment, est-ce qu'il n'y a pas une forme, sans forcément réveiller les pires heures du protectionnisme, il y a un moment, il faut qu'il y ait une forme de réciprocité.
Il faut qu'il y ait une forme de réciprocité, ok, mais on est. Je pense que il y a deux éléments dans la réponse. Je disais ce matin, si j'ai bien compris, que les Européens d'abord discuter avec les Américains. Voilà, il y a a priori aucune chance que ça aboutisse à quoi que ce soit. Et il y a l'hypothèse d'ouvrir une procédure devant l'OMC qui sert à ça, qui mettra des années, etc. Mais qui sert à ça. Ça, il y a. Le volet là, il y a le volet ensuite politique européenne, et on revient à ce que je disais tout de suite. Pourquoi est-ce que ça s'est pas fait avant? Qu'est-ce qui a empêché les Européens de le faire avant? Je pense que ça ne tient pas qu'à des questions de conjoncture, ça tient à des divergences structurelles dans leur vision de politique économique, et aussi parce que, me semble-t-il, dans le cas français, on ne cesse de vanter cette acheter européen, acheter français, cocorico, etc., mais pour pallier les en réalité les faiblesses de notre compétitivité.